RFI et France 24.
Tentez votre chance et bénéficiez d'une dotation financière pour le développement de votre projet.
Candidatez jusqu'au 28 février sur le site appafrique.rfi.fr.
appafrique.rfi.fr.
Radio France Internationale, il est 7h30 à Paris, 6h30 en temps universel. Le journal avec Édouard Dupénoit. À la une, irritation du gouvernement et cagnotte populaire, le Sénégal froissé par les sanctions de la CAF.
Oui, particulièrement par celles qui visent Pape Thiaw, le sélectionneur, suspendu pour 5 matchs du calendrier africain. Dakar veut introduire un recours, des Sénégalais se mobilisent pour payer l'amende du coach, et qui finit quand même par refuser. Le sport, le foot, les clubs, cette fois avec un autre coach emblématique, Lamine Diaye, il rend son tablier au tout-puissant Mazembe. Le Niger, au lendemain des violences autour de l'aéroport de Niamey, la junte y voit déjà une attaque de supposés mercenaires, sponsorisés même par la France et des pays ouest-africains. Leurs activités étaient déjà suspendues, ils sont déjà désormais dissous, les partis politiques n'ont plus d'existence officielle au Burkina Faso. Motif avancé, trop nombreux, trop déconnectés, trop dangereux pour le tissu social. Victoire judiciaire pour la junte malienne, la Cour de justice de l'UMOA confirme que les sanctions prises par l'Union monétaire ouest-africaine il y a 4 ans étaient bien illégales. On parle aussi d'une opération financière à plusieurs milliards. Un groupe chinois qui veut acheter un minier canadien qui exploite de l'or dans plusieurs pays d'Afrique.
Les sanctions de la CAF sont-elles trop sévères, trop clémentes? Les autorités sénégalaises ont déjà leur réponse.
Oui, et sans embâche d'ailleurs, beaucoup trop sévères. Réaction au sein du gouvernement dès hier. Dans les heures qui ont suivi l'annonce de la Confédération africaine de foot, on le rappelle, des suspensions de matchs et de fortes amendes. Côté Sénégal et côté Maroc, après les incidents de la fin de la finale de la CAN, Dakar dit vouloir faire appel. Et ce qui irrite le plus, c'est la suspension du sélectionneur pour 5 matchs du calendrier africain, Léa Lisa Westerhoff.
C'est l'une des possibilités offertes à la Fédération sénégalaise de football, celle de faire appel devant une commission ou devant le tribunal arbitral du sport des sanctions imposées par la CAF au Sénégal et plus précisément au sélectionneur Pape Thiaw. C'est l'option choisie par Dakar, comme l'a annoncé la ministre de la Jeunesse et des Sports à la presse, Khady Dien Gaye.
Tout ce qui est possible de faire, nous allons le faire pour atténuer ces sanctions. Moi, je pense que ce n'est pas dans l'intérêt de notre équipe quand même de voir son coach être assis sur un banc pendant 5 matchs CAF. Et en plus de ça, une amende pécuniaire. Le coach s'est comporté en Sénégalais et le coach a agi en vrai patriote. Et nous ne ménagerons aucun effort pour être à ses côtés, qu'il soit rassuré en ce sens-là.
Pape Thiaw, qui reste un héros au regard des Sénégalais, preuve en est cette cagnotte en ligne lancée par des fans pour aider le sélectionneur à s'acquitter de l'amende de 54 millions de francs CFA imposée par la CAF. En quelques heures, 2 millions de francs CFA avaient déjà été récoltés, jusqu'à ce que Pape Thiaw lui-même, via son compte Instagram, ne demande aux Sénégalais de rediriger cet argent vers des causes plus urgentes. Léa-Lisa Westerhoff, Dakar, RFI.
La junte nigérienne apporte ses premières précisions sur les incidents de l'aéroport de Niamey. Survenus il y a plus de 24 heures tard dans la soirée de mercredi, ces coups de feu et ces détonations autour de l'aéroport international d'Oriamani et de la base militaire 101 dans cette même zone. Le ministère de l'Intérieur de la Transition parle de 20 assaillants neutralisés, qualifiés de mercenaires. 11 auraient aussi été arrêtés. Abdourahmane Tchiani, président de la transition, s'est rendu hier à l'escadrille, la partie de l'aéroport où se trouve la flotte aérienne de l'armée. Devant les micros et les caméras de la RTN, il a remercié les partenaires russes pour leur soutien et étrillé ceux qu'il qualifie de sponsors de ces mercenaires, France, Bénin et Côte d'Ivoire.
Nous félicitons l'ensemble des forces de défense et de sécurité qui ont su coordonner leur action, ainsi que les partenaires russes qui ont défendu avec professionnalisme leur secteur de sécurité. Nous rappelons aux sponsors de ces mercenaires, notamment Emmanuel Macron, Patrice Talon, Alassane Ouattara, nous les avons suffisamment écoutés aboyer, qu'ils s'apprêtent eux aussi à leur tour à nous écouter rugir.
Extrait des propos d'Abdourahmane Tchiani hier, recueilli par la radio-télévision nigérienne.
Au Burkina Faso, à présent, les partis politiques sont dissous.
Le Conseil des ministres d'hier adopte en effet le décret qui dissout tous les partis et toutes les formations politiques. Leurs activités étaient de fait suspendues depuis plus de 3 ans, septembre 2022 et la prise de pouvoir d'Ibrahim Traoré. Le gouvernement de transition estime que la multiplication de ces partis politiques aurait entraîné des dérives, divisé les citoyens et même fragiliser le tissu social. Les détails avec Alexis Guilleux.
En plus de la dissolution des partis, le Conseil des ministres a adopté un projet de loi portant abrogation des lois encadrant le fonctionnement et le financement des formations politiques, ainsi que le statut du chef de file de l'opposition. Le ministre de l'administration du territoire, Émile Zerbo, justifie ces mesures par la faillite, selon lui, des partis politiques qui auraient fragilisé le tissu social.
Les partis et formations politiques en pléthore se sont avérés en total déphasage continu avec les aspirations réelles du peuple et les enjeux stratégiques, notamment sécuritaires. Cette faillite a favorisé la division des citoyens et créé un développement déséquilibré du territoire.
Cette grande et importante décision, selon les mots d'Émile Zerbo, s'inscrit dans le cadre de la refondation de l'État. Le patrimoine des partis dissous sera d'ailleurs dévolu à l'État.
En tout état de cause, l'adoption de la mesure permettra non seulement de renforcer la cohérence de l'action gouvernementale avec les idéaux de la révolution progressiste populaire, mais surtout d'ouvrir la voie à une réforme du mode de gouvernance politique de notre pays.
Les projets de loi doivent désormais être transmis dans les meilleurs délais à l'Assemblée législative de transition.
L'actualité dans les pays du Sahel encore et le Mali, qui enregistre une franche victoire judiciaire. La Cour de justice de l'UEMOA, l'Union économique et monétaire ouest-africaine, reconnaît que les sanctions de l'UEMOA, qui ont duré 6 mois en 2022, était illégale. L'Union avait alors pris sur elle les sanctions décidées par la CEDEAO. L'idée à l'époque, c'était de tenter de contraindre les militaires putschistes à adopter un calendrier électoral. Dès le début, Bamako avait déposé une requête en annulation devant la justice de l'UEMOA. Et 4 ans plus tard, cette cour donne raison à la transition malienne, David Baché.
La victoire est symbolique et politique. Fermeture des frontières, suspension des échanges commerciaux et financiers. Pendant 6 mois, en 2022, les autorités maliennes de transition ont dénoncé des sanctions inhumaines et illégales. À l'époque, l'UEMOA avait endossé des sanctions que la CEDEAO avait décidées. C'est cet alignement que la Cour de justice de l'UEMOA a jugé illégal. La CEDEAO a des objectifs de gouvernance démocratique, explique Maître Konaté, ancien ministre de la Justice du Mali. Ce n'est pas le cas de l'UEMOA, qui n'est pas une organisation politique. C'est ce que la Cour vient de rappeler. L'avocat, très critique des militaires au pouvoir, relève d'ailleurs que c'est la Cour de l'UEMOA qui a été saisie et non celle de la CEDEAO, devant laquelle il n'aurait pas eu gain de cause, selon lui. Il est rare qu'une décision prise à l'unanimité des chefs d'État membres soit annulée, souligne en tout cas Julien Antouli, maître de conférence en droit public. Bamako ne pourra toutefois pas exiger de dédommagement financier. Les sanctions annulées sont déjà levées et leur nullité ne vaut qu'à compter de la date de l'arrêt, ce qui ferme la voie à toute demande de réparation.
David Baché, Alassane Tigri a été placé en détention provisoire hier au Bénin. Il est ancien ministre, vice-président du parti d'opposition Les Démocrates. Il est aussi le frère aîné du lieutenant-colonel Pascal Tigri, lui qui est identifié comme l'auteur de la tentative de coup d'État de début décembre. Alassane Tigri est poursuivi par la CRIET, inculpé notamment pour attentat contre l'autorité de l'État. Le chef de la junte en Guinée-Bissau, le général Ortantam, a été élevé général de division. C'est le grade le plus élevé dans l'armée de ce pays d'Afrique de l'Ouest. Ortantam était brigadier général lorsqu'il a pris le pouvoir à la fin du mois de novembre, en renversant le président Oumaro Sissoko Embalo. On le rappelle, la veille de l'annonce prévue des résultats provisoires des élections présidentielles et législatives. La junte avait ensuite nommé Ortantam comme président de la transition pour une durée d'un an. Elle a fixé au 6 décembre prochain la date des élections censées marquer le retour de la Guinée-Bissau à la normalité institutionnelle.
RFI, 14h39 à Pékin. La Chine revient en force sur le marché mondial de l'or.
Le métal précieux dont le prix ne cesse de battre ses propres records. Le géant chinois Zijin Mining annonce acheter une entreprise canadienne, elle-même particulièrement implantée dans plusieurs pays africains. Une opération à plusieurs milliards de dollars, très révélatrice des ambitions chinoises dans le secteur aurifère Et sur le continent, Cléa Broders, envoyé spécial permanente.
Zijin Mining, l'un des plus grands producteurs mondiaux d'or et de cuivre, annonce le rachat du Canadien Allied Gold pour l'équivalent de 3,4 milliards d'euros. Une acquisition emblématique conclue alors que le prix de l'or a plus que doublé en un an, franchissant récemment le seuil historique des 5 000 $ l'once. Via sa filiale Zijin Gold, fraîchement introduite à la bourse de Hong Kong, le groupe chinois met la main sur plusieurs grandes mines d'or en Afrique. Des mines en production au Mali et en Côte d'Ivoire et un projet majeur en Éthiopie promis à entrer en service en 2026. Derrière ce rachat, une priorité, sécuriser des réserves à long terme et profiter pleinement du boom des métaux précieux. Déjà très présent en Afrique, notamment en République démocratique du Congo et au Ghana, Zijin confirme sa stratégie d'expansion tous azimuts. Pour les autorités canadiennes, qui ont durci le contrôle des investissements étrangers dans les ressources naturelles, le dossier sera scruté de près. Mais le signal est clair. La Chine revient en force sur le marché mondial de l'or et l'Afrique en est l'un des terrains privilégiés. Cléa Broders de Pékin, RFI.
Le tout-puissant Mazembe, emblématique club de foot congolais, perd son entraîneur.
Et oui, Lamine Diaye démissionne, l'ancien héros des corbeaux. Déjà sur le banc lors de la finale de la Coupe du Monde des clubs il y a 16 ans, il avait quitté le TP en 2013. Il y était revenu 10 ans plus tard, avril 2023, mais sans grand succès. Une demi-finale de Ligue des Champions il y a 2 ans, pas de qualification cette saison pour les Coupes Interclubs. En fait, Pascal Mouangala, il a fini hier par rendre son tablier.
Selon plusieurs sources proches du club, Lamine Diaye s'est dit être fatigué et le climat au sein du TP n'était plus favorable pour lui permettre de continuer. Déjà en fin de contrat depuis la fin de la saison dernière, c'est via un accord de principe avec Moïse Katumbi, président de Mazembe, que le technicien franco-sénégalais était resté quelques mois en plus sur le banc des corbeaux. Pour les joueurs, son départ sonne comme un arrêt brusque, l'interruption d'une mission, alors qu'en championnat, les statistiques auguraient un avenir meilleur. Côté supporters, les avis restent partagés. Pour certains, Diaye n'était plus l'homme de la situation. Ils évoquent notamment l'absence du TP sur la scène africaine pour la première fois depuis près de 3 décennies sous sa direction. Mais d'autres préfèrent plutôt garder les souvenirs de l'épopée 2010, champion d'Afrique et médaillé d'argent au mondial des clubs, prouesses qui ont fait de Lamine Diaye un coach légendaire des corbeaux et depuis lors un fils maison. Pascal Mangala, Lubumbashi, RFI.
L'actualité sportive revient en longueur dans une heure avec Antoine Grenier. Une fois n'est pas coutume, Radio France Internationale est à Clermont-Ferrand, cette ville du centre de la France qui accueille à partir d'aujourd'hui la crème mondiale des courts-métrages, 58e édition du Festival International pour ses formats courts. Des milliers de films y sont envoyés chaque année. Une petite proportion, moins de 3%, vient du continent africain, mais justement, la sélection Regards d'Afrique permet d'en mettre certains à l'honneur. Un court-métrage étant infiniment moins cher et moins complexe à produire qu'un long métrage. C'est un tremplin idéal pour de nombreux réalisateurs. Camille Varenne est réalisatrice elle-même, membre également du comité de sélection.
C'est vraiment toute la diversité du continent qui est mise à l'honneur, avec des pays qu'on voit rarement représentés au cinéma, comme le Cap-Vert, le Tchad, la Gambie, le Rwanda. Donc on a aussi des réalisateurs émergents qui viennent nous raconter des histoires de leur pays auxquelles on n'a pas toujours accès. Et il faut avoir en tête que pour le Festival du court-métrage de Clermont, on reçoit 8000 films et seulement 2,5% de ces films proviennent du continent africain. On veut vraiment mettre en lumière ces cinéastes qui font face à des défis importants pour exister sur la scène internationale. Et donc, on a plusieurs réalisateurs émergents, comme Imran Cizey, qui vient de Gambie avec son film The Kangourang, ou L'écho derrière les collines, d'Aimé Octave, qui revient sur le génocide rwandais. Mais on a aussi des cinéastes plus confirmés, par exemple Rachid Bouchareb, et qui là sera présent avec son documentaire Boomerang Atomique, qui revient sur les essais nucléaires menés par la France en Algérie.
Camille Varenne, propos recueillis par Ouda Ibrahim. Une journée de mobilisation hier en France pour Christophe Glaise, journaliste indépendant détenu depuis 7 mois en Algérie, condamné en appel à 7 ans de prison ferme. L'ancienne ministre française Ségolène Royal a fait savoir hier qu'elle pourrait lui rendre visite aujourd'hui en prison. Radio France Internationale, 7h44 à Paris, la suite de RFI Matin. Marion Casanova.
Et c'était le journal d'Edouard Dupénoit. RFI 6h44 en temps universel. La revue de presse africaine, bonjour Catherine Potet.
Bonjour Marion, bonjour à toutes et à tous.
À la une, l'attaque sur l'aéroport de Niamey dans la nuit de mercredi à jeudi.
20 mercenaires neutralisés, 11 autres interpellés, titre Actu Niger, citant le ministère de la Défense, qui a donné d'autres précisions, assurant notamment que le dispositif de sécurité de l'aéroport, appuyé par les forces de sécurité de la ville de Niamey, a permis de repousser vigoureusement l'attaque avec promptitude et professionnalisme. Le ministère de la Défense précise également que dans leur fuite, les assaillants ont tiré à l'aveuglette, provoquant d'importants dégâts matériels, dont la destruction d'un stock de munitions qui a pris feu et endommagé 3 aéronefs civils stationnés sur le tarmac de l'aéroport. Afrique.com, de son côté, décrit l'ambiance à Niamey pendant l'attaque. Une vive inquiétude s'est emparée de la ville. Après des échanges de tirs et de puissantes explosions survenues au cœur de la nuit dans un périmètre stratégique de la capitale nigérienne. Selon des témoins, ajoute encore Afrique.com, les détonations se sont succédées pendant près d'une heure. La situation a provoqué un mouvement de panique à l'aéroport international Diori Amani. Des passagers craignant une attaque directe contre des installations civiles ont quitté précipitamment les lieux, parfois à pied.
Le calme est revenu ensuite et quelques heures plus tard, le président Abdourahmane Tiani s'est rendu sur les lieux de l'attaque.
C'est ce que raconte l'APA, l'agence de presse africaine, selon laquelle le président nigérien a salué la riposte des forces de défense et de sécurité et lancé un avertissement aux États et personnalités qu'il considère comme ayant soutenu les assaillants. Dans un ton particulièrement offensif, poursuit l'APA, il a mis en cause ceux qu'il considère comme des sponsors extérieur des assaillants. Il a ainsi averti, nous rappelons aux sponsors de ces mercenaires, notamment Emmanuel Macron, Patrice Talon et Alassane Ouattara, que nous les avons suffisamment écoutés aboyer et qu'ils s'apprêtent eux aussi à leur tour à nous écouter rugir, a ajouté le président nigérien sans plus de précision. De son côté, le média en ligne Les Échos du Niger remarque que depuis des jours, les autorités et les services compétents sont en état d'alerte maximale pour parer à toute éventualité. En raison du contexte d'insécurité ambiant qui n'épargne désormais plus Niamey, la capitale nigérienne qui est la plus proche de l'épicentre du foyer terroriste au Sahel que constitue depuis quelques années la zone dite des trois frontières, à cheval entre le Niger, le Burkina Faso et le Mali.
Qui est derrière cette attaque? La question préoccupe également Jeune Afrique.
L'assaut n'a pas été revendiqué, remarque Jeune Afrique, mais le modus operandi, en particulier l'utilisation de drones et son degré de coordination, semble pointer vers le JNIM, la branche sahélienne d'Al-Qaïda dirigée par le malien Yaga Rally. Les assaillants n'auraient toutefois pas bénéficié de l'effet de surprise, car selon Jeune Afrique, l'Agence nationale de l'aviation civile avait réuni le vendredi 16 janvier les différents acteurs de la plateforme aéroportuaire afin de statuer sur les mesures à prendre compte tenu des menaces interceptées par les renseignements nigériens. À l'issue de la rencontre, un dispositif exceptionnel avait été mis en place, ce qui a sans doute contribué à limiter les dégâts provoqués par les assaillants. Pas question toutefois de minimiser l'ampleur de l'attaque menée dans la nuit de mercredi à jeudi. Jeune Afrique estime en effet qu'en démontrant leur capacité à frapper ainsi aussi proche de Niamey, à une dizaine de kilomètres de la présidence, et en parvenant à mener un assaut d'une telle ampleur sur des installations militaires stratégiques, les assaillants ont fait une démonstration de force.
Catherine Potet pour la revue de presse africaine. Vous revenez dans une demi-heure pour la revue de presse internationale. À la une, les sanctions de l'Union européenne contre les gardiens de la révolution iranien. RFI 6h48 en temps universel.
RFI, toute l'actualité, Marion Kazanov.
Donald Trump maintient la pression sur l'Iran. Le président dit espérer ne pas avoir à frapper le pays. Téhéran se dit prêt à riposter en cas d'attaque et condamne aussi la décision hier de l'Union européenne que j'évoquais à l'instant. L'Union européenne a classé les gardiens de la révolution iranienne comme organisation terroriste. Aux États-Unis, l'émissaire du président annonce une réduction à venir des effectifs de la police anti-immigration à Minneapolis. Mais l'opération va se poursuivre. Opération qui suscite l'émotion dans tout le pays par ses méthodes méthode violente et après la mort de deux manifestants. Témoignage à venir dans le dossier du jour, dans notre prochain journal d'ici 10 minutes. Au Niger, après l'attaque de l'aéroport de Niamey, le général Tiani se rend sur place. Il félicite la Russie de son aide pour avoir neutralisé les assaillants. Il a accusé aussi hier les présidents français, béninois et ivoiriens d'être les sponsors de ces mêmes assaillants. Et puis, moins d'un mois après la capture par les États-Unis du président Nicolas Maduro, le Venezuela salue un bond historique pour le pétrole vénézuélien avec l'adoption, sous pression américaine, d'une réforme ouvrant le secteur au privé et puis l'annonce par Washington d'une suspension partielle des sanctions instaurées en 2019. Ce sont des acteurs de plus en plus présents dans les affaires africaines. Les Émirats arabes unis ont une influence grandissante sur le continent, à la fois sur le plan économique et commercial, mais surtout sur les marchés portuaires et logistiques, sans oublier leur rôle trouble dans la guerre qui dévaste le Soudan depuis presque 3 ans. Ce matin, Sidi Yansané se penche sur ce dossier avec notre grand invité Afrique, Marc Lavergne. Il est directeur de recherche émérite au CNRS et au laboratoire CITERS de l'Université de Tours.
Bonjour Marc Lavergne.
Bonjour.
Depuis le début de la guerre au Soudan, il y a bientôt 3 ans, les Émirats Arabes Unis sont particulièrement exposés, accusés notamment de soutenir les paramilitaires FSR. Vous pourriez nous résumer brièvement ce qui lie les Émirats avec le Soudan, qui est aujourd'hui la plus grave crise humanitaire au monde ?
Au départ, c'est l'or et c'est Dubaï. C'est-à-dire que Dubaï est le grand marché de l'or à l'échelle mondiale et il y a au Soudan des réserves prodigieuses. C'est-à-dire que le Soudan est devenu le premier producteur d'or en Afrique, devant l'Afrique du Sud. C'est dans l'ensemble de l'immensité du Soudan qu'on trouve des ressources en or. Il suffit de se baisser pour le ramasser en quelque sorte. Donc il y a des dizaines de milliers d'orpailleurs qui ne sont pas des professionnels mais qui viennent de toute l'Afrique, de tout le Sahel pour gratter la terre. Et ces gens-là sont contrôlés par les forces de soutien rapide qui récupèrent l'or, qui ne passe pas par la banque centrale et par les circuits officiels mais qui est embarqué sur des avions et qui va directement à Dubaï pour être raffiné. Ça assure la prospérité de ces forces de soutien rapide et en même temps celle de Dubaï. Et c'est ça qui fait que l'armée a voulu remettre la main sur ses ressources en or. Donc elle a intimé l'ordre aux forces de soutien rapide de rentrer dans le rang, c'est-à-dire de revêtir des uniformes, de se mettre avec des grades sous la tutelle des généraux qui ont le pouvoir à Khartoum depuis l'indépendance en 1956, pratiquement sans interruption, mais qui ont besoin de ressources aussi, non pas tellement pour développer le pays, mais pour l'armée, pour les militaires, pour les officiers, et tout ça avec le soutien de l'Égypte et d'autres pays qui sont aussi dirigés par des militaires.
Alors, dans ce dossier soudanais, comment se positionne Abu Dhabi par rapport à ses partenaires et aux autres puissances de la sous-région ?
Les Émirats Arabes Unis sont une fédération dont Abu Dhabi n'est que la tête politique. Et encore une fois, le business, on le sait bien, est surtout centré à Dubaï, tandis que l'administration est plutôt à Abu Dhabi. Donc il y a pour les Émirats une sorte de compétition avec l'Arabie Saoudite. Les Émirats étant un petit pays avec une population, il y a 10 millions d'habitants si vous voulez, mais il n'y en a que 2 millions qui sont émiriens, et les autres sont des travailleurs immigrés. Et il y a une compétition avec l'Arabie Saoudite qui a 40 millions d'habitants, dont la plupart sont des Saoudiens. Et vous voyez, il y a ces deux visions 2030 de MBS, comme on l'appelle, Mohamed Ben Salman, et de MBZ, Mohamed Ben Zayed. C'est-à-dire les deux princes héritiers ou dirigeants de ces deux pays qui sont en compétition, finalement, pour une sorte de leadership régional, hein, avec d'autres pays qui sont aussi parties prenantes, hostiles ou complices, hein, comme le Qatar, Koweït, tous ces pays qui forment le Conseil de coopération du Golfe.
Bah alors, parlons de cette compétition. Les Émirats donnent vraiment l'impression d'élargir leur influence en Afrique dans divers domaines, sécurité et défense, on en a parlé, mais aussi les ports, la logistique, la diplomatie. Depuis quand vous diriez, Marc Lavergne, que les Émirats ont commencé à tisser leur toile en Afrique ?
Les Émirats, il ne faut pas oublier qu'on appelait ça du temps des Anglais la côte des pirates. Hein. Donc ce sont des gens qui ont une proximité avec l'Afrique orientale, et puis à partir de là, des pénétrations à l'intérieur du continent africain depuis des siècles, hein, avec du trafic d'ivoire, du trafic d'esclaves, du trafic de beaucoup de choses depuis des siècles, hein, bien avant l'arrivée des Européens. L'Éthiopie, par exemple, a toujours été exempte de cette influence, mais tous les bords, la Somalie, l'Érythrée, le Soudan, ont été sous influence des pays du Golfe.
Parlons quand même des accusations très graves, hein, qui pèsent les Émirats, notamment le soutien armé aux paramilitaires soudanais, hein, dont les crimes atroces sont désormais recensés presque chaque jour. Le transport de mercenaires aussi en Soudan, parfois venus d'Amérique du Sud. Comment vous expliquez, Marc Lavergne, que les Émirats jouissent d'une telle impunité, notamment face à leurs grands partenaires que sont les États-Unis et aussi face à l'Europe?
Ils ne se plient pas du tout aux oukases qui peuvent venir de Washington ou d'ailleurs. Hein. Quand ils interviennent comme ça pour soutenir des groupes en déshérence, hein, des groupes comme ces forces de soutien rapide au Soudan et d'autres ailleurs en Afrique, ils ont affaire à des États faillis et qu'il y a plein de ressources à exploiter et qu'on ne va pas s'arrêter à la légalité internationale et que finalement personne ne va s'opposer aux Émirats parce qu'ils jouent un rôle aujourd'hui irremplaçable sur la scène internationale. Les États-Unis ne sont plus des défenseurs de l'ordre mondial. Au contraire, ils ouvrent des portes au désordre mondial. Ça implique que des petits pays comme les Émirats ne s'arrêtent pas à la légalité internationale avant d'opérer comme ils le font en soutenant des rebelles ou des groupes terroristes.
Merci beaucoup, Marc Lavergne.
Je vous en prie.
Marc Lavergne, directeur de recherche émérite au CNRS. Il était notre grand invité Afrique ce matin. Il répondait aux questions de Sidi Yansané. Entretien à réécouter sur notre site RFI.fr ou bien sur notre application Pure Radio. Chaque vendredi sur RFI, on retrouve Charlotte Ntamak dans la parlotte de Charlotte. Et pour vous, Charlotte, il faut absolument observer un temps de carence sentimentale avant de se remettre en couple après une rupture.
Oui, après une rupture sentimentale, d'aucuns passent à autre chose comme si de rien n'était. Pourtant, la fin d'une relation ne veut pas dire qu'on n'attend plus rien de la personne dont on vient de se séparer. On attend au moins de l'autre qu'il ou elle observe un temps de carence sentimentale et non pas se jeter dans les bras du premier venu à peine sorti d'une déception amoureuse. Marco, moi j'ai décidé de ne plus aimer. Je vais d'abord rester comme ça. Le temps de carence sentimentale, c'est avant tout pour votre bien, mais certains refuse de l'observer, justement pour continuer de vous faire du mal même après la relation. Man, une go me bat, je la remplace là, pour que quand elle voit ma nouvelle go, sa tête chauffe. Marco, tu crois que je me suis mise avec Paul parce que je l'aime trop? C'est pour montrer à Anissé qu'il n'est rien. Ne pas observer un temps de carence sentimentale, c'est semer la pagaille dans la tête de la personne avec qui on vient de se séparer. Marco, je comprends maintenant pourquoi quand je lui ai dit que c'est fini entre nous, il a seulement dit OK, sans même essayer de me retenir. Donc, c'est parce qu'il avait déjà ciblé une autre. Le temps de carence sentimentale vous évite de mettre quelqu'un d'autre entre vous, même si vous n'êtes plus ensemble. Joe, n'est-ce pas la fille si te suppliait ici à genoux? Tu as refusé ses excuses. Maintenant qu'elle est avec quelqu'un d'autre, tu veux qu'elle fasse comment? Quelqu'un laisse, quelqu'un prend. Supporte seulement mon frère. Les bien-pensants qui disent, Marco, c'est le passé, la vie c'est devant, ne connaissent absolument rien à la vie amoureuse. Car dire qu'après une relation, il ne faut pas regarder derrière et avancer sans se retourner, c'est comme dire de conduire une voiture sans regarder le rétroviseur. Pourtant, il est important de savoir si son ex a clignoté à gauche ou à droite, ou de savoir s'il faut s'arrêter au prochain feu et faire demi-tour. Car qui vous a dit que celui ou celle qui vous a aimé ne peut pas vous rétro-aimer? En vous remettant immédiatement avec quelqu'un d'autre, pensez quand même à ce que peut ressentir votre ex. Hein? Respecter le temps de carence sentimentale, c'est montrer du respect à quelqu'un qui vous a quand même aimé, même s'il vous a quitté. Mais quand tu vois le temps qu'il a pris pour te faire une cour assidue, le temps que vous avez passé ensemble, et que le temps qu'il met à te remplacer ne dure pas plus que le temps d'une minute de silence, il y a de quoi se demander s'il vous a vraiment aimé. Combien de temps devrait durer la carence sentimentale? Tu disais que tu ne peux pas vivre sans moi. Reste donc sans personne si je ne suis plus avec toi. Hein? À vendredi.
Et la parlotte de Charlotte et ses conseils de cœur ce vendredi. À suivre sur RFI dans 2 minutes, le journal de Paul Loncin Spinelli.
Ce samedi sur RFI, Écho d'ici, Écho d'ailleurs, Bruno Faure.
Entre Donald Trump et la Fed, les tensions sont à leur comble. Mis sous pression et menacé de poursuites pénales, le président de la Banque centrale des États-Unis défend son indépendance. Quelles sont les conséquences de ce bras de fer? Pour l'économie comme pour la démocratie, les enjeux sont colossaux.
Écho d'ici, écho d'ailleurs.
Avec la Banque Ouest-Africaine de Développement.
Tous les samedis à 10h10 TU sur RFI.
Carrefour du Maghreb.
En Tunisie, le combat des ouvrières agricoles.
Juliette Rangeval.
Les femmes représentent près de la moitié de la main-d'œuvre agricole en Tunisie. Conditions de travail précaires, protection sociale insuffisante, effet du réchauffement climatique. Face aux difficultés, elles s'organisent et se battent pour leurs droits.
Carrefour du Maghreb avec Juliette Rangeval, tous les samedis à 11h10 TU sur RFI. Afrique, mémoire d'un continent. Elgas.
Avec l'historienne et essayiste tunisienne Sophie Bessis, je vous raconte l'histoire ancienne de la Tunisie, les racines de son roman national. De Carthage à 1830, phéniciens, romains, islamisation, influence ottomane, donc régence, exploration des identités plurielles d'un pays oscillant entre Orient et Occident.
Afrique, mémoire d'un continent, tous les dimanches à 8h10 TU sur RFI. En sol majeur, Yasmine Chouaki.
Avec Gaëlle Camilindi, sociétaire de la Comédie Française, à l'affiche des Femmes Savantes. Conversation qui démarre sur Molière et qui se poursuit au Rwanda avec Didi. Un documentaire qui repart sur les traces du génocide des Tutsis et d'une mère.